Bonjour Bob Blaster, c'est avec une grande émotion que j'ai écouté l'émission consacrée à Final Fantasy. J'avoue avoir ressenti beaucoup beaucoup d'émotions en ayant écouté les différents thèmes musicaux et en particulier celui de Final Fantasy VII. Beaucoup de choses sont revenues dans ma tête de joueur. Et voilà. Merci.
Oui, bonjour, j'écoute l'émission depuis le début de l'été. Vous parlez de beaucoup de choses qui m'intéressent, mais par contre, vous parlez beaucoup de jeux de rôle au niveau jeux vidéo et on n'entend pas parler du tout du vrai RPG. Et je nomme ça avec Donjons et Dragons. Voilà, merci.
Salut Webmaster, salut toute l'équipe. Voilà, je voulais vous remercier pour vos émissions. C'est vraiment du bon boulot. Ça me ravit. Merci encore. Et puis pour le petit délire, ils nous l'ont volé. C'est ça le petit hobbit.
Alors moi, je suis pas du tout d'accord. J'étais tellement contente de savoir que Blockbuster revenait cette année. Et là, de savoir que ça finit dans une semaine, je suis contre. Voilà, c'est tout. Mais sinon, c'est top. Continuez. L'année prochaine, du coup.
Exterminate, exterminate.
To be or not to be, not to be.
Dans l'absolu, il y a des choses qui ne se font pas. Prendre la brosse à dents de quelqu'un parce que t'as oublié la tienne, ça ne se fait pas. Manger la dernière pomme de terre rôtie qui reste dans le plat sans demander si quelqu'un en veut, ça ne se fait pas. Regarder un nouveau-né et dire à sa mère « en 9 mois, t'aurais quand même pu t'appliquer », ça ne se fait pas. Et changer d'acteur, l'acteur d'une série comme si de rien n'était, eh ben je suis désolé, ça ne se fait pas. Dans Ma sorcière bien-aimée, c'était insupportable. Ils ont changé Jean-Pierre, le mari de Samantha, et ils ont fait genre c'est normal. Mais non, non, messieurs les scénaristes, c'est pas normal. Le spectateur, il tisse un lien particulier avec un acteur, surtout après plusieurs épisodes. Si du jour au lendemain, on me changeait la tête de mes enfants, j'imagine que je finirais par me rendre compte. Dans Le Prince de Bel-Air, pareil, ils ont remplacé la tante Viviane et tout le monde s'en fout. Mais qu'est-ce que ça dit des personnages d'un point de vue dramaturgique? Est-ce que l'oncle Phil, il est arrivé à un point de sa relation avec sa femme où il la regarde plus? Là, c'est quand même pas comme si elle avait juste changé de coiffure. Dans Friends, ils ont remplacé Carol, la mère du fils de Ross. Alors je veux bien qu'il soit distrait, mais tout de même. Dans Game of Thrones, ils ont remplacé Dario. Dans Sense8, ils ont remplacé Caféus. Mais partout, c'est le grand remplacement. Heureusement, il y a une série. Quand l'acteur change, on prend non seulement le temps d'expliquer pourquoi, mais c'est même érigé comme un principe. Mais si encore il y avait que ça de génial dans cette série. Et cette série, bien entendu, elle s'appelle Doctor Who.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
Le TARDIS.
Ça signifie quoi?
Quoi? Vous rigolez, j'espère. Vous le savez, enfin.
J'ai entendu différentes versions.
C'est un acronyme, ça signifie transport aérien radicalement déplaçable intraspatial. Vous voulez venir voir le futur, toute l'histoire et tout l'univers.
Je le voudrais plus que tout, mais je dois rester ici. Je dois absolument veiller sur deux boîtes et garder le monde sain et sauf.
Cette bonne guerre. Clara, ça vous ennuie?
Quoi donc?
Je vous retrouve dans le TARDIS.
Ah, oui, bien sûr. Salut. Prenez soin de vous.
Oui, prenez soin de lui. Le laissez pas mourir ou un truc du genre.
Et s'il devient vraiment agaçant?
Dans ce cas, ok.
C'est compris.
Je dois savoir laquelle vous êtes.
Je suis Osgood.
Humaine ou Zagon?
Je répondrai à cette question un jour. Savez-vous quand ce jour arrivera? Le jour où la réponse n'intéressera plus personne.
Le 23 novembre 1963 apparaît sur les écrans anglais une série de science-fiction totalement déjantée où tout peut arriver. Son nom, Doctor Who. Plus de 50 ans plus tard, non seulement cette série continue d'être diffusée, ce qui en fait la série de science-fiction la plus longue de l'histoire de la télévision, mais elle ne cesse de se réinventer, à l'image de ce fameux docteur qui change de tête et désormais de genre à intervalles réguliers. Un petit peu comme Buffy contre les vampires, dont Blockbuster vous a parlé l'année dernière, Doctor Who est une série qui témoigne d'une richesse thématique et scénaristique que peu de séries plus en vue peinent à atteindre. Alors évidemment, faut se lancer dedans, faut suivre, mais il y a quelque chose d'absolument fascinant. Mais je vais me taire, car pour évoquer ce trésor anglais devenu phénomène de société mondiale, je suis très bien entouré aujourd'hui. J'ai à mes côtés Pauline Cerizel, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes youtubeuse pour la chaîne Pepperpot Team, et vous êtes une fan absolue de Doctor Who.
J'espère en tout cas l'être, je pense l'être.
Mais en plus, vous n'êtes pas toute seule. Il y a également Asma Elmardi, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directrice de publication pour Brain Damage.
Exactement.
Voilà, et aussi une grande fan de la série, parce que sans quoi, il n'y aurait absolument aucune raison de vous avoir invité.
On est d'accord.
On est d'accord. Mmh. C'est éditorialement, c'est quand même bien foutu. Thomas Erquitt, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes créateur de la New Original et Community Manager chez Topito.
Absolument.
Ce qui fait qu'une grosse partie de mes parties, de mes moments de rigolade sur le net, proviennent de vous en fait.
Ah ouais, on est une équipe hein, ouais,
mais
oui. Ouais.
Ouais, mais je vais pas remercier tout le monde. Aujourd'hui, je vous remercie vous. Et Benjamin Martin,
bonjour,
membre de l'association Doctor Who, les enfants du temps, et du collectif YouTube Tardy Story.
Tout à fait.
Vous seriez pas fan de Doctor Who?
Un petit peu. J'apprécie pas mal.
Alors ensemble, on retracera l'histoire de Doctor Who, en quoi c'est une série unique, qu'est-ce qui en fait son intérêt, par quel bout commencer cette série quand on n'y connaît rien. Bref, en une heure, on va essayer de faire de vous des fans de Doctor Who.
Alors comme ça, tu te prends pour un dieu. Mais il n'en est rien. Tu n'es qu'un parasite dévoré par la jalousie et l'appétence qui convoite la vie sacrée des autres. Tu te nourris d'eux, de leurs souvenirs, d'amour et de deuil, de naissance et de mort, de joie et de chagrin. Alors vas-y, prends les miens. Prends mes souvenirs. Mais j'espère que t'as bon appétit. Parce que j'ai une très longue vie. Et j'en ai des tonnes de souvenirs. J'ai été témoin de la fin des seigneurs du temps. J'ai vu la naissance de l'univers et j'ai assisté à son dernier souffle. Seconde par seconde jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Ni temps, ni espace. Juste moi. J'ai vu des univers gelés et des créations se consumer. Oui, j'ai vu des tas de choses que tu n'imagines même pas. J'ai perdu des choses que tu ne comprendras jamais. Et je sais des tas de choses. Oui, j'ai des secrets que je dois taire, des connaissances que je ne dois jamais révéler. J'ai un savoir qui ferait éclater la cervelle d'un parasite comme toi. Alors je t'en prie, viens. Vas-y. Prends mes souvenirs, baby. Vas-y, prends-les! Oui, vas-y, régale-toi!
Pauline Cerizel, what is Doctor Who? Qu'est-ce que Doctor Who?
Doctor Who, c'est une série qui a été créée en 1963 par Verity Lambert et Sidney Newman. Verity Lambert, c'est la première productrice femme de la BBC.
Wouhou!
Voilà. Sidney Newman, c'est un producteur canadien.
Wouhou!
Donc, ils ont fait ce projet, la BBC n'y croyait pas des masses, on peut le dire. Franchement, une série de science-fiction à destination de la famille est quand même pas mal centrée sur les enfants.
C'était surtout pour remplir une case qui était vide, en fait, le samedi.
À Smile Mardi, hein, parce que je dis, il y a plusieurs voix, donc...
Oui. Voilà, c'était vraiment pour remplir une case. Ils se sont dit, bon, ça va pas nous coûter cher, on va faire ça, ça fera plaisir aux enfants d'art, de la science-fiction. Et le but derrière, c'était de faire une série qui était à la fois portée sur les sciences, sur l'histoire également. Donc, au tout début de la série, il y avait beaucoup d'épisodes historiques pour présenter l'histoire aux enfants, par exemple Marco Polo, les croisades, ce genre de choses. Ça a été abandonné par la suite pour vraiment se concentrer sur le côté science-fiction. Et donc, le premier acteur qui a interprété le docteur, c'est un acteur qui s'appelle William Hartnell, qui est un acteur britannique, qui était assez connu à l'époque pour faire des rôles dans des comédies, pour faire des rôles de lieutenant.
Jamais colonel, c'est interdit ça.
Ah, c'était peut-être aussi. Il a eu mal à monter les échelons. Mais donc, il était surtout connu pour ça par le grand public, et donc il s'est retrouvé là à jouer ce rôle de docteur. Hein. Donc, le docteur, c'est une espèce de scientifique un peu bizarre qui vient d'une autre planète. Enfin, au début, c'était pas très bien défini, ça s'est vraiment peaufiné avec le temps. Et à la base, il voyageait avec sa petite fille qui s'appelait Suzanne. Et donc la toute première aventure, c'est le docteur et Suzanne qui se retrouvent à embarquer un peu contre leur gré les deux professeurs de Suzanne, Yann et Barbara, qui étaient inquiets des résultats de Suzanne et qui sont venus un peu farfouiller jusqu'à tomber sur le vaisseau du docteur qui s'appelle un TARDIS. Et donc ils se sont retrouvés dans ces aventures.
C'est un acronyme TARDIS qui signifie
voilà. Alors en français...
Oh, dites-le en anglais, Time.
Time and Relative Dimensions in Space.
D'accord. Voilà. On l'a eu en français.
Oui. D'ailleurs, j'ai pas trop compris. Je pensais que c'était une blague, moi.
C'est une blague. C'est une blague.
Mais en fait, il y a un truc hyper intéressant par rapport à ça. Quand on remonte à la genèse de la série.
Ah, vous, là, vous savez
la
dire
genèse dès le début. Genèse.
Oui, il m'a fait 3 semaines d'émission.
J'ai 40 mots à caser en une heure.
C'est super. Non. Vous êtes hyper inter.
En vrai, l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, alors déjà, très drôle de l'écouter en français. La fin faisait étrange. Je pense que si on isole le coteau, il fait vas-y, prends tout. Je pense qu'on arrive en audio brut sur quelque chose d'un peu différent comme produit. Mais surtout, cet extrait arrive et l'aboutissement, cet extrait a un sens. Il est très émouvant dans la série. C'est l'aboutissement de toute une mythologie. On est là en 2013. C'est un épisode de la saison 7. Mais au premier épisode, cette mythologie n'existe pas. Et c'est rare. Et c'est assez merveilleux, je trouve, le fait qu'on ait des séries qui se soient construites au fur et à mesure. Et ça tient la route. Globalement, ça tient la route. Et c'est rare en fait, c'est rare, c'est chaotique et cette dimension chaotique elle est unique, ce qui fait que cette série est fantastique.
C'est quand même 55 ans d'histoire, donc même, oui voilà, là on va arriver sur la 37e saison de Doctor Who.
37e saison.
Voilà.
Bon, pas exactement.
C'est impressionnant. Mais... Ah oui. Si, il y a c'est la 37e saison de Doctor Who.
C'est presque aussi long que Les Feux de l'Amour.
Oui, mais ça fait pas le même effet. Ça fait pas le même effet.
Non, du tout.
Et alors, est-ce que cette série a tout de suite eu du succès? Parce que elle est quand même, elle a sa première diffusion, c'était le lendemain de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Mm-hmm. Autant dire qu'on imagine que la population mondiale avait autre chose en tête.
Ils l'ont rediffusé.
Ils l'ont rediffusé juste avant et c'était le samedi suivant, si je me souviens bien. Ouais. Ils l'ont rediffusé. Enfin, c'était Vérité qui avait demandé une rediffusion parce que justement, il y avait eu l'assassinat de Kennedy et qu'ils ont eu des chiffres un peu déplorables. Et qui suivait d'ailleurs un autre épisode consacré à des monstres mythologiques de Doctor Who qui sont les Daleks et qui ont tout de suite séduit les gamins anglais. Et du coup, ils ont eu, je crois, 10 millions d'un coup. Enfin, c'était un gros coup de poker le samedi suivant. Et alors qu'ils étaient partis pour faire 4 épisodes et arrêter la série. Et donc du coup, petit à petit, la série a pris de l'ampleur très 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 vite dans les années 63, 64, 65. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que William Hartnell avait du mal, qu'il avait des problèmes de santé, qu'il retenait pas très bien les mots, etc. Et c'est à ce moment-là, en fait, où ils ont décidé de remplacer William Hartnell. Mais c'était une idée un peu farfelue. C'était surtout pour se débarrasser de l'acteur. Et c'est à ce moment-là où ils ont décidé de faire une régénération.
Mais on va aborder ce principe de la régénération juste après une petite pause musicale. On va écouter une musique tirée de la série Song for Ten. Oh, elle est chantée par Neil Hannon et composée par Murray Gold pour l'épisode The Christmas Invasion.
Well, I woke up today and the world was a restless place. It could have been that way for me. And I wandered around and I thought of your face, that Christmas looking back at me. I will run and I'll come running back to you. 'Cause I followed my star and that's what you are. I've had a merry time with you. Today has been the best day, everything I ever dreamed. So have a good life, do it for me, make me so proud like you want me
your eyes it will seem that you can see me now and then. Yes, I wish today was just like every other day, 'cause today has been the best day, everything I ever dreamed. I wish today was just like every other day, 'cause today
C'était Song Fortin tiré de la série Doctor Who. Vous êtes toujours dans Blockbuster sur France Inter. J'en profite pour vous dire que la programmation musicale est signée Elsa Béranger et à la technique aujourd'hui, Maxime Ingrand et Jérémy Guillon. Cette émission est comme toujours réalisée par Céline Hila, Marie Mougin et Chloé Brassière à la préparation de l'émission, aidée de Prudence Castelot.
Mais de qui parlait-il, face de Beau, quand il a dit vous n'êtes pas tout seul?
J'en sais rien.
Vous m'avez moi? C'est ce qu'il a voulu dire?
Je ne crois pas, non. Désolé.
Qui alors?
Peu importe. Bon, retournons au TARDIS. Alors quoi, vous restez?
Jusqu'à ce que vous me parliez, oui. Que signifie le dernier de votre espèce?
Ça n'a vraiment aucune importance.
Si, c'est important. Vous ne dites jamais rien. Dites-moi pourquoi.
Je vous ai menti, Martha. Parce que l'idée me plaisait. En vous mentant, un moment, je pouvais imaginer qu'ils étaient encore en vie. Je ne suis pas juste un seigneur du temps. Je suis le dernier seigneur du temps.
Que s'est-il passé?
Il y a eu une guerre. Une guerre du temps. La dernière grande guerre du temps. Mon peuple a combattu une race appelée les Daleks. Pour le bien de l'humanité. Et ils ont perdu. Nous aussi. Tout le monde a perdu.
Alors, je ne le répéterai jamais assez dans Blockbuster. Les extraits que vous entendez sont en version française, mais je vous invite à écouter les versions originales. Oui. Si vous voulez vraiment avoir la quintessence de tous les sujets qu'on aborde, voilà, je ne l'ai pas dit depuis le début de cette saison, mais il faut écouter en VO. Et en dessous, il y a les sous-titres. Si vous savez lire, ben forcément, c'est beaucoup mieux. Voilà, voilà. Alors, j'aimerais qu'on resitue un petit peu Doctor Who, enfin le Docteur, parce qu'il dit, là, on l'a entendu que c'était le dernier membre de son espèce. Mais qui est-il? D'où vient-il? Et surtout, pourquoi il agit comme il agit? Qui veut se lancer?
Oh, c'est Thomas compliqué.
On fait super bien.
C'est lourd comme sujet.
Ouais, qui est-il? Déjà, en fait, au-delà de cette question-là, je pense qu'il y a une question qui est encore plus importante, c'est qu'est-ce que ça peut nous faire? qui est vraiment.
Rappelez-moi de ne plus jamais vous poser une question.
Non, mais c'est important parce qu'en fait, le Doctor Who est une série dont la mythologie se construit vraiment au fur et à mesure. Et j'insiste sur ce point parce que c'est une série qui est très longue. On dit 37 saisons maintenant. Là, on va arriver à la 11e du revival. Et beaucoup de gens se disent par où commencer. Et à partir de là, si on commence à rentrer dans la mythologie, parfois ça peut être compliqué. Mais pour situer dans les grandes lignes, c'est un extraterrestre qui vient d'une planète qui s'appelle Gallifrey, qui sort de... C'est une planète de grands académiciens, de gens qui passent beaucoup de temps à penser très fort et à se taper dessus un petit peu aussi.
À taper sur les autres.
Qui prennent les gens de haut aussi.
Ouais. Extrêmement de haut. Globalement, c'est... je sais pas.
C'est l'élite.
C'est l'élite. Voilà, exactement. Voilà. C'est une planète de sénateurs. Et donc, ils peuvent voyager dans le temps et... C'est vraiment une planète de sénateurs.
Ils ont des robes de sénateurs,
ils ont des collerettes impraticables, mais bref. Et donc ils voyagent dans le temps, et le docteur est un petit peu rebelle, et un jour il s'enfuit, il vole un TARDIS, donc une machine à voyager dans le temps, et il se barre, et c'est le tout début de la série. Et c'est là que ça commence. Après on apprendra qu'il y a peut-être des raisons particulières pour lesquelles il s'est barré, peut-être que le docteur n'est pas son vrai prénom, peut-être que c'est qu'un surnom, peut-être que...
Faut découvrir la série.
Et voilà, mais ça faut le découvrir.
Pourquoi le TARDIS ressemble à une cabine de téléphonique anglaise?
C'est très simple. Peut-être passer la parole sur ce coup.
Oui, passons la parole.
Bah, en fait, dans le tout premier épisode de la série, donc il est dans les années 60.
1963, ouais.
Et la cabine, le TARDIS prend la forme, une forme familière de l'époque où il arrive. Et en fait, il y a eu un dysfonctionnement dans le circuit de camouflage. Et la cabine reste cabine téléphonique tout le long de la série. En fait, ça fait un, C'est un point d'ancrage. C'est réparé à un moment ?
Oui, c'est le sixième docteur. À un moment, pour une saison, ils ont réparé rapidement le TARDIS, enfin le circuit caméléon du TARDIS. Ça donne des choses assez drôles. Le TARDIS qui se transforme en orgue, ce genre de choses. Ils ont vite recassé le circuit caméléon parce que c'est quand même assez c'est emblématique de la série.
C'est voilà. Un grand symbole.
Le docteur n'aime pas se faire s'embêter.
Je veux juste être vraiment très relou sur ce
non,
point. Mais...
Non. En plus, commencer une affirmation en disant je vais être relou, bah non, on l'a pas. Voilà.
À la question, par contre, qui est le docteur, ça reste quand même une incarnation d'un homme britannique, typiquement britannique, gentleman, bienveillant, très intelligent, qui sait plein de choses et qui est là en fait pour aider les autres. Donc c'est pour ça que le docteur est un symbole au-delà d'être un extraterrestre, c'est qu'il incarne tout ce qu'il y a de plus stéréotypé au niveau britannique. Et je pense que c'est aussi pour ça que tout de suite les gens ont adhéré dans les années 60 parce que c'est le gentleman bien habillé, qui a une belle élocution, qui a une grande culture et qui vient pour aider les autres.
Et bim, Thomas Hercouët, vous avez vu comment Asma elle a replacé le truc
hein. C'est un métier.
Alors, Doctor Who est une série qui a, on en a la preuve ici, un fan club fidèle et dévoué. Mais à l'heure des séries HBO ou Netflix, est-ce que Doctor Who est connu du grand public? Chloé Brassière, qui une seule fois dans sa vie a été suivie par un docteur, mais c'était pour une intoxication alimentaire, est allée vérifier.
J'ai jamais vraiment regardé. Je sais qu'il y a plusieurs épisodes, des saisons vraiment complètement. Refaite et tout par rapport au temps parce qu'elle est hyper vieille.
Je connais le principe, même il y a une cabine et tout. Bien sûr, c'est hyper culte en Angleterre.
Je connais cette série. Bon, je crois avoir regardé au moins 7 saisons. Et le concept, c'est que le docteur, il change de face à peu près à chaque saison. Il se promène un peu dans plusieurs univers. Et je trouve ça intéressant parce que déjà, le docteur, c'est un personnage fou. Donc c'est ça qui rend un peu la série attrayante, si on peut dire.
Moi, je connais deux noms, mais je regarde pas. Je sais juste qu'ils se baladent dans une cabine téléphonique bleue.
On en a beaucoup parlé aussi, mais jamais plongé dedans. À tort, peut-être.
C'est le symbole du Royaume-Uni en termes de série. C'est quelque chose d'incroyable. C'est des répliques cultes, c'est des fans hardcore, mais vraiment hardcore. Voilà, je suis tellement excitée à l'idée que le nouveau docteur soit une femme. C'est une très bonne chose. J'ai très très hâte. C'est fabuleux. On prend énormément de séries. Après, c'est très difficile de rentrer dedans. Mais c'est une expérience assez singulière.
Alors, je rappelle que pour une journée encore, via notre répondeur, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20, au 01 56 40 30 20, sur le sujet du jour, Doctor Who. Alors, on l'a entendu, il y a beaucoup de gens qui connaissent la série Doctor Who, mais qui n'ont jamais regardé. Et heureusement, il y a eu une fan à la fin de ce micro-trottoir. Donc, quel est le rapport des fans à cette série et du grand public, généralement ?
Ils ont peur, souvent.
C'est l'émotion, c'est surtout l'émotion en fait. C'est une série qui, comme je disais tout à l'heure, c'est une série qui incarne vraiment la Grande-Bretagne dans tout ce qu'il y a de plus kitsch et stéréotypé. Enfin, si on prend le revival de 2005 qui a été le plus vu, les 4 premières saisons, c'est des monstres en fou. Même les 5 premières, c'est des monstres en papier mâché. Ils n'avaient pas beaucoup de budget. Certains monstres sont ridicules, mais extrêmement ridicules, surtout quand on voit le Dalek à l'intérieur, par exemple, ou mais certains Cybermen,
etc. Ça fait deux fois qu'on parle des Daleks et on n'a pas précisé.
Les Daleks, c'est les ennemis mythiques en fait du docteur. C'est les premiers ennemis qui ont été introduits dans les années 60 et qui ont été réintroduits un peu tardivement dans le revival. Je crois que c'était saison 2 ou 3.
Non, saison 1. Il y a un épisode 1. Qui s'appelle Dalek avec uniquement un seul Dalek. Et c'est Rose qui permet de le
ramener. Ce
sont des meilleurs.
Qui sont une allégorie des nazis dans l'univers
exactement,
de Doctor Who.
Exactement. Qui détestent tout le monde, qui veulent exterminer tout le monde et qui ont d'ailleurs essayé d'exterminer Gallifrey. C'est les plus grands ennemis des seigneurs du temps et donc du docteur, et le docteur est leur plus grand ennemi. Et donc du coup, je pense que ce qui a séduit les gens au-delà de la Grande-Bretagne, parce que ça reste une institution là-bas avec le reboot, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions malgré tout qui passent. C'est extrêmement bien écrit, c'est un peu l'essence de la science-fiction, c'est qu'il y a des vrais sujets philosophiques, il y a une vraie critique en fait de l'histoire, même de l'humanité.
Et de l'aventure, disait Thomas Hercouët.
Exactement, et il y a beaucoup d'aventures. Enfin, je pense que c'est le rêve d'un peu tout le monde, on est tous un peu des grands enfants, mais c'est le rêve d'un peu tout le monde de monter dans pas spécialement dans une cabine téléphonique, mais de monter dans une soucoupe volante et d'aller ou dans une fusée et de découvrir l'univers et de découvrir le monde, ou même de partir dans le temps et de vivre un peu certaines époques comme l'époque victorienne, rencontrer Shakespeare. Et je pense que ça aussi, ça fait le succès de Doctor.
Et d'ailleurs, le Tardis, c'est pas un vaisseau comme les autres. C'est-à-dire, c'est pas juste un moyen de transport. C'est aussi une entité autonome qui décide un petit peu de là où le Docteur doit aller. Et c'est pas forcément là où lui, il a envie d'aller.
Tout à fait, oui. Ouais.
Il y a cet aspect.
Il y a un épisode où on nous explique carrément que c'est le Tardis qui emmène le Docteur là où il veut.
En fait, c'est ça qui est trop cool avec cette série, c'est que chaque élément mythologique est un prétexte à une aventure. Mm-hmm. Et c'est une série qui est... je pense qu'en France, on voit les fans comme un peu... Des fans de séries un peu nerd, genre comme les fans de Game of Thrones, de Star Wars.
Qui n'ont pas de vie.
Ouais, voilà.
Général, c'est ça.
Mais par contre, au Royaume-Uni...
Alors, moi, c'est une institution.
Mais tout le monde est fan, c'est en fait. Tout le monde a un souvenir avec Doctor Who.
Mais avec un rapport particulier. Alors moi, je sais que je suis allé vivre à Cardiff pendant un an. Donc c'est la ville où est tourné Doctor Who. Et je suis arrivé déjà très très fan de la série. C'est pour ça que j'étais parti à Cardiff. Et j'y suis allé en me disant, j'ai une petite connaissance académique de Doctor Who, je vais pouvoir m'intégrer. Et en fait, je suis arrivé là-bas, et en fait, Doctor Who, pour eux, c'est Fort Boyard, quoi. Tout le monde aime bien, c'est très cool. Oh, ça va, quoi. Et moi, ils me voyaient arriver avec des pépites dans les yeux. Je fais, calme-toi, enfin, c'est bien, mais quand même. Mais après, c'est vrai que c'est une institution, mais c'est surtout un appel à l'aventure. Il faut que chaque épisode soit une aventure. Donc, le Tardis, le background des personnages, tout ça n'est qu'un prétexte à faire la plus belle aventure possible, la plus folle, la plus fun et la plus émouvante.
Et des aventures profondément humanistes, parce que il y a énormément de héros d'aventure, mais là où Dr. Who se distingue des autres, c'est qu'il avait un véritable jardin pacifique,
non violent.
Il y a des messages.
Il parcourt le monde pour aider les gens. Souvent, le Tardis, on disait tout à l'heure que le Tardis est une entité qui l'emmène en fait où il veut, mais en fait le Tardis l'emmène là où on a besoin de lui en général. Et donc il a sauvé plusieurs populations. Il essaie de venir en aide à un. C'est vrai qu'il finit beaucoup et très souvent à Londres ou en Angleterre.
Ah bah c'est plus simple, donc forcément.
Beaucoup de problèmes, les Anglais.
Mais il y a des épisodes qui sont vraiment très touchants, où il va aider Van Gogh, où il va essayer d'éviter le suicide de Van Gogh. Il est là, il a choisi le nom d'ailleurs du docteur, parce que c'est pas son vrai nom gallifréen et on ne saura jamais son nom, je pense. Mais il a choisi ce nom-là parce qu'il a envie d'aider les gens. Et de soigner les gens, mais au sens le plus philosophique du terme.
Et de base, il s'est sauvé de Gallifrey parce que les Gallifreyens ils avaient la technologie du voyage dans le temps, mais ils ne voulaient pas intervenir ailleurs. Mmh. Et lui, il s'ennuyait, donc il se sauve. Et il était juste observateur. De fil en aiguille, il en arrive à aider les gens, mais pour lui, c'était juste bon. Il est là, donc il fait ce qu'il a à faire. Et sinon, il était juste là en tant qu'observateur. Et d'ailleurs, ça pose certains soucis dans le premier épisode avec les Daleks. C'est à cause de lui qu'on voit les Daleks parce que. Il veut absolument aller visiter un endroit que les autres disent non, ça a l'air dangereux. Non, mais on va y aller. Il y a un truc qui est cassé dans le Tardis.
Il fait exprès de casser une pièce. Il enlève une pièce du Tardis pour dire c'est cassé, il faut qu'on aille le chercher. Et en fait, cet idiot, parce que c'est le terme, il l'oublie dans la ville des Daleks. Et donc, en fait, c'est vraiment comme ça que ça accélère. Et c'est vrai que sur les premières saisons de Doctor Who, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a vraiment un cheminement. Vraiment, sur la première saison, le docteur est un observateur. Il s'oppose lorsque ses compagnons veulent intervenir. Il y a l'épisode The Aztecs, qui est le 5e épisode, si je ne m'abuse. De la première saison, où sa compagne Barbara est prise pour une déesse, pour la déesse Yetaxa. Et le docteur lui dit, alors qu'elle veut changer pour essayer d'arrêter les sacrifices humains, il lui dit bien, vous ne pouvez pas changer l'histoire, vous ne pouvez pas en changer une seule ligne.
Faut
alors quand on voit 37 saisons plus, enfin 36 vu que la 37e n'est pas passée, quand on voit 36 saisons plus tard où en est le docteur, il y a quand même une certaine évolution qui est surtout pas mal visible avec le deuxième docteur. Où il y a vraiment un changement de mentalité et où là, le docteur commence à vouloir vraiment, vraiment aider les gens. Et d'ailleurs, ça va lui attirer pas mal de problèmes.
Tout à fait.
Voilà.
Vous écoutez France Inter, il est 11h33 et c'est l'heure des chiffres. Alors, je vous donne des chiffres et vous me dites à quoi ça correspond.
Attention, c'est la guerre.
Il est déjà en train de se préparer.
Si, je vous donne le chiffre 97. C'est l'année pendant laquelle le 8e docteur s'est régénéré. C'est le nombre d'épisodes perdus de la série. Ou c'est le nombre d'épisodes en noir et blanc.
Non.
97.
Il y a 255 épisodes en noir et blanc.
Allez, bim.
Oui. Alors, c'est fait. Peut-être qu'avec les derniers retrouvés, ça passe.
Moi, je pense que c'est ceux qui ont été perdus. Mmh. Moi, je pense que c'est ça.
Eh bien, c'est une bonne réponse. Oui. Si je vous vous donne le chiffre 699. C'est le nombre total d'épisodes de la série, le nombre d'épisodes que contient la première série, ou en centaines, le nombre de téléspectateurs réunis pour regarder le jour du docteur pour les 50 ans de la série.
C'est le nombre d'épisodes classiques.
C'est les classiques.
Et oui, c'est 699, c'est le nombre d'épisodes que contient la première série. Et alors, le jour du docteur a été vu par 77 millions de spectateurs dans 94 pays différents.
C'était un événement mondial.
Et c'était au cinéma, en 3D. C'était chouette.
Même en France, on l'a eu en même temps.
Sur France 4.
Et ils ont fait d'ailleurs un marathon toute la nuit, je crois, pour ça, si je me souviens
cette série,
bien.
Ça, cette chaîne, bientôt supprimée, envoyée sur le numérique.
La petite puce.
Oui. Si je vous donne le chiffre 11, en dizaines, le nombre d'épisodes dans lequel Tom Baker incarne Dr. Who, le nombre de livres Dr. Who sortis en France, ou la saison qui fut récompensée par la Writers Guild of Great Britain.
Ah, ça peut pas être la 11 parce qu'elle n'a pas été diffusée.
Voilà.
J'ai la 2 au pif.
La 2, du coup, la 2.
Le nombre de livres Dr. Who sorti. Eh bien non, c'est la saison qui fut récompensée par la Writers Guild of Great Britain.
Mais oui, voilà.
Bon, écoutez, quand même, vous m'avez donné plein de bonnes réponses. Donc on va faire une petite pause musicale avec une récompense avec Gaëtan Roussel et son dernier titre, Hope.
Tu renverses les moments, inverses les choses. Tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin. Tu ne connais plus le nom des fleurs. Tu te rappelais pourtant de tout. Place des autres, tu dis pourquoi sans même dire un mot. Tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin. Tu ne connais plus le nom des fleurs. Tu te rappelais pourtant de tout. Mais à la fin, de plus rien du tout. Tu te rappelais pourtant de nous. Mais à la fin, de plus rien. De nous, tu te rappelais de tout. Mais à la fin, de plus rien du tout. Tu te rappelais pourtant de nous. Mais à la fin, de plus rien.
Et oui, c'était Gaëtan Roussel avec Hope sur France Inter.
Des jambes. J'ai toujours des jambes. Excellent. Des bras. Oh, des mains. Oh, avec des doigts. Des têtes. Des oreilles. Oui. Et des yeux. Deux. Un nez. Ça va, j'ai comme une pierre. Un menton. J'ai des larmes. Des cheveux. Je suis une fille. Non. Non. Non, c'est pas une fille. Ah, et mes cheveux ne sont toujours pas roux. Il y a autre chose, quelque chose d'important. Je suis...
train de m'écraser.
C'était donc un extrait de Doctor Who, la première fois où on voit apparaître David Tennant.
Matt Smith.
Oh là là. Oui,
on a perdu David Tennant une seconde avant.
On l'a perdu avant. Mais moi j'étais triste parce qu'en fait c'était mon préféré, c'était David Tennant.
On ne rentre pas dans ce débat-là.
Non mais si, quand même, c'est bon. Alors le principe de Doctor Who, c'est qu'il n'y a pas un docteur, mais des docteurs. À chaque régénération, il y a un nouvel acteur. Et ça, de temps en temps, les fans, eh bien, ils aiment pas.
J'aime pas.
Oui, car dernièrement, on a annoncé que le prochain docteur, alors, je vais dire quelque chose, vous me dites si j'ai tort, c'est le 13e ?
Ouais. Ouais. Docteur, oui. C'est le 13e.
C'est la 13e incarnation du docteur.
D'accord.
Mais c'est techniquement le 12e.
Mais c'est vrai que
non, c'est pas ça. C'est,
on peut tromper une fois,
Miller. Non, c'est le 13e.
C'est le 13e docteur.
Mais c'est techniquement le 14e.
Oh, ça va à ce stade.
Bon, on s'en fout. De toute façon, le truc, c'est ce qui a vraiment défrayé la chronique, c'est que pour la première fois, c'est une femme. Mm-hmm. Et alors, sur Twitter, évidemment, beaucoup d'internautes se sont déchaînés à cette annonce. Si,
les gens déchaînés sur Twitter.
Les gens sur Twitter ont souvent des choses très intéressantes à dire.
C'est tellement bien, Twitter. Tout le monde est gentil sur Twitter.
Alors, voici un florilège des réactions qu'on a pu trouver quand on a appris que le docteur serait désormais une femme. La BBC peut se garder son rouge à lèvres sonique.
Voilà.
Bien joué la brigade du politiquement correct qui a réussi à ruiner Docteur Who. Ça n'aurait jamais dû être une femme. Ça n'a plus d'intérêt. Docteur Who, docteur non. Voilà.
Créatif en plus.
Je regardais depuis les débuts dans les années 60. J'ai vu tous les épisodes. C'est une mauvaise décision à tous les niveaux. Triste d'annoncer que j'arrête là.
Au revoir.
C'est voilà. Un vieux qui a Twitter.
Réaction suivante. Le docteur est un homme, c'est juste comme ça. Je vois pas besoin de mettre la pagaille là-dedans. T'as quand même quelqu'un qui a essayé de relativiser un petit peu. Et encore une victoire du politiquement correct. Après ce choix de prendre une femme pour être Docteur Who, je vais être le premier à le dire. Ça va être un désastre. Donc, comment vous, qui êtes fan de cette série depuis des années, vous avez vécu cette polémique?
Déjà, est-ce que je peux juste revenir sur le dernier?
Allez-y, Pauline.
C'est un désastre. Ça a quand même été la série qui a généré le plus de tweets au dernier Comic-Con de San Diego, la deuxième série. Ce qui est quand même un peu loin du désastre, parce que c'est quand même un peu la référence en matière de convention. Et puis sinon, moi, j'ai très, très bien vécu. J'étais vraiment ravie. En plus, je l'ai vu apparaître. J'ai reconnu immédiatement. Mmh. J'avais les yeux émerveillés. J'ai sauté sur mon canapé de joie. J'étais vraiment heureuse parce que c'est une série qui est basée sur le changement. Doctor Who, c'est entièrement du changement.
Thomas Hercouet lève le bras. Exactement.
C'est quelque chose qui était réclamé par beaucoup de fans depuis au moins 2-3 saisons.
Ah, depuis bien
et
plus
surtout,
que ça, c'était prévu.
La dernière saison, en plus, il y a plein de petites suggestions de discussions entre le docteur et sa compagne Bill Potts. Et fallait s'y attendre un petit peu où il parlait de genre, où il parlait justement d'amour, de d'homosexualité, etc. Et où il explique que les Gallifreyens n'ont pas nécessairement de genre, qui peuvent se régénérer en homme, femme, etc. Et donc, fallait s'y attendre un petit peu. Et je pense aussi que c'est une manière aussi de répondre à pas mal d'accusations que beaucoup de féministes ont faites au reboot, et notamment ces dernières saisons, où on a toujours eu des compagnons femmes, qui étaient un peu parfois clichés. Et du coup, je pense aussi que c'est pour ça qu'on a choisi de faire un docteur femme. Et puis surtout maintenant, enfin, où on a quand même pas mal de mouvements qui mettent en avant les femmes, on a pas mal de séries qui mettent en avant les femmes et des femmes scénaristes, et c'est quand même l'une des rares séries de SF britannique où il y a beaucoup de femmes derrière la caméra. Je pense que c'était le bon moment pour mettre une femme devant la caméra en tant que personnage principal.
Pauline Zirizel ?
Oui, juste rapidement, tu disais ça fait 2-3 saisons, c'est beaucoup plus vieux que ça. Le cinquième docteur, il y avait déjà des rumeurs sur le fait que ça serait une femme. Il y avait déjà eu des articles sur ça, ça avait déjà fait un carnage dans le fandom.
Et je parlais beaucoup du revival.
Oui, non, mais je veux dire, c'est quelque chose de très très ancien et c'est vraiment attendu depuis longtemps.
Mais même le producteur Sidney Newman, donc le producteur qui a créé la série, avait dit qu'un jour c'était possible d'avoir un docteur femme. Donc en fait, techniquement, il n'y avait pas de souci. Alors c'est vrai que les réactions sont extrêmes sur Internet. C'est vrai qu'il y a certains fans qui ont du mal. Mais J'ai l'impression.
Mais il y a toujours des fans qui ont du mal avec le changement. Ils ont eu du mal avec Peter Capaldi parce qu'il était vieux. Moi, je me souviens très bien, on travaillait dessus à l'époque.
Matt Smith, voilà.
Et parce qu'il était extrêmement vieux, tout de suite, oui, j'arrête Doctor Who. Il est vieux, il a pas de charisme, il est machin. Surtout après Matt Smith, ça va être naze, machin. Enfin, il y aura toujours des fans qui vont aller de toute façon.
Que voulez-vous exactement ?
La guerre.
Ah, bien sûr.
Nous gagnerons.
Vous en êtes sûr ? Oui, enfin, c'est possible. Vous gagnerez peut-être. Mais on ne gagne pas éternellement. La roue tourne tout le temps. Alors je vous en prie, brisez le cycle.
Pourquoi vous parlez encore ?
Parce que je veux que vous voyez où je veux en venir, et j'y suis presque.
Vous savez ce que je vois, docteur ? Une boîte. Une boîte qui possède tout ce qu'il me faut. J'ai 50% de chance de réussir.
Nous aussi.
Et c'est parti, main sur les buzzers. Serait-ce votre jour de chance? Vous êtes prête à jouer? Qui sera la plus rapide? Qui sera l'heureuse gagnante?
Ce n'est pas un jeu.
Non, ce n'est pas un jeu, ma chère, je le pense très sincèrement.
Pourquoi vous faites ça?
Oui, moi aussi, j'aimerais le savoir. Pourquoi avoir organisé tout ça?
Parce que ce n'est pas un jeu, ma chère Kate. Ceci est un modèle réduit d'une guerre. Toutes les guerres menées jusqu'à présent sont là, devant vous. Parce que c'est toujours pareil. Lorsque vous tirez la première balle, même si vous pensez avoir une bonne raison, vous n'avez aucune idée de qui va mourir. Vous ne savez pas à qui sont les enfants qui vont hurler de douleur et mourir brûlés. Combien de cœurs brisés? Combien de vies anéanties? Combien de sang versé avant que tout le monde se rende compte de ce qu'il aurait fallu faire depuis le début? S'asseoir et se parler!
Alors cet épisode où on entend Capaldi est absolument incroyable. Il y a une sorte de discours qu'il reprend d'ailleurs certaines fois en convention, tellement les fans ont été marqués par cet épisode où il prend position contre la guerre. Et donc ce docteur, qui est un docteur plus âgé, comme on l'a dit, plus cynique, et qui est mon deuxième docteur préféré.
Il a un côté très patriarche, très donneur de leçons en fait. Très gros scientifique qui donne des leçons, qui est là pour ramener de la science tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Et d'ailleurs, dès qu'il apparaît, il pose tout de suite il pose ses conditions, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de flirt.
C'est ça.
Parce que on a évoqué les compagnons, c'est-à-dire ces gens, ces sidekicks qui suivent le docteur dans ses aventures. Et c'est vrai qu'assez souvent, il y a toujours cette tension un petit peu romantique entre le docteur et ses compagnes.
Qui a été amenée avec la nouvelle série. Ouais, quand Russell T. Davies a repris la série, il a mis une sorte de romance qui n'existait pas avant. Où le compagnon était juste le compagnon qui suivait le docteur.
Oui, c'était une romance toujours à sens unique. Hein. Ouais. C'était jamais réciproque, vraiment. C'était toujours la compagne féminine qui voyait la grandeur du docteur, qui voyait à quel point il était philanthrope.
Mais il n'y avait pas d'amour vraiment dans la série classique.
C'est une espèce d'admiration, en fait.
Admiration.
Une grosse admiration, mais qui se transforme en amour, quand même. Il y a eu des déclarations d'amour de Rose, il y a eu une déclaration d'amour de Martha avec l'incarnation du docteur de David Tennant.
Alors que là, c'est sûr.
Et c'est à partir du moment où on a rajouté des fiancés.
De glisser une incise dans la conversation, alors que Benjamin Martin répond à Asma Elman. Ça me permet de redire les noms.
Non, c'est exactement ça. Mais bon, désolé, du coup, je m'en veux d'avoir coupé. Je voulais juste approuver férocement ce qu'il disait.
C'est pas grave.
Un compagnon qui une très grande importance dans la nouvelle série aussi. Mm-hmm. Un peu trop même parfois.
Qui ont beaucoup de ça, les compagnons comparés à la série originelle, en fait, c'était des vrais sidekicks. C'est-à-dire qu'ils étaient là pour valoriser le docteur. Toutes leurs remarques, c'était juste des excuses pour que le docteur aille dans une diatribe, etc. Enfin bref. Et alors que là, dans le revival, ça prend vraiment les codes des nouvelles séries. Dans le sens où on développe les personnages secondaires, mais on les développe vraiment. On explique leur background, on explique d'où ils viennent, quels sont leurs enjeux, quelle a été leur histoire. Rose, par exemple, a perdu son père et c'est quelque chose qui la bouffe. Martha est un médecin qui veut aider le monde, mais qui en même temps est amoureuse du docteur, mais qui à un moment en a marre d'attendre qu'il y ait une réciprocité et qui donc décide de se barrer. Amy est quelqu'un qui va attendre toute sa vie le retour d'un personnage fantasque qu'elle a rencontré quand elle avait 6 ans, 7 ans. Et c'est ça qui rend justement la série hyper attrayante, parce que c'est comme si on était nous-mêmes des compagnons, parce qu'il y a un effet miroir en fait avec ces personnages secondaires qui sont très réalistes, qui sont très british, et je pense que pour les Britanniques ça donne encore plus d'immersion dans la série. Et donc résultat, je pense que c'est ce qui crée un peu plus de comment dire, de fidélisation devant la série jusqu'à maintenant, jusqu'à 11 saisons plus tard.
En fait. Tout ça, c'est à mettre au crédit des scénaristes et dont on n'a pas encore parlé, et notamment un scénariste dont les auditeurs connaissent forcément le travail pour une autre série,
Sherlock.
Qui s'appelle Sherlock, Stephen Moffat, qui est quand même responsable de certains des cliffhangers. C'est-à-dire les cliffhangers, c'est cet élément d'intrigue où on termine une action complètement en suspense et on est appelé à regarder l'épisode qui suit. Et Stephen Moffat a écrit des épisodes incroyables.
Moffat est parti beaucoup dans le fil rouge, en fait. Chose que Russell T. Davies ne faisait pas. Il était beaucoup sur l'anthologie, c'est-à-dire les aventures assez classiques du docteur dans l'histoire. Donc, ils vont à Pompéi, ils vont machin, ils vont là, etc. Alors que Stephen Moffat, c'est quelqu'un d'un peu plus classique en termes de série, qui préfère les intrigues longues, tirées au possible, etc.
Je ne suis absolument pas d'accord.
Je trouve qu'il
y a beaucoup de fil rouge, quand même, avec Moffat.
Il y a énormément de fil rouge avec Stephen Moffat. Il y a vraiment beaucoup de fil rouge avec Stephen Moffat, mais je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y en avait moins avec Russell T. Davies. Dans le sens où c'était peut-être moins sur les épisodes avant, mais alors les finales de Russell T. Davies, ça y allait franco.
Par contre, les finaux, il y allait.
Trois épisodes à la suite qui se suivaient vraiment directement, et il y avait quand même beaucoup. Par exemple,
mais c'est pas des fils rouges sur la longueur. Mais je ne suis pas, sur toute
la saison. Pas d'accord, parce que par exemple, quand tu as la saison 3, qui est justement celle qui termine avec trois épisodes pour le final.
Tu parles du maître.
Voilà, on a tout en amont. Je confonds. C'est sur la saison 4, on a toute une installation. C'est bien la saison 3, il y a tout en amont l'installation du fil rouge qui est Saxon, qui est dans toute la saison.
Mais c'était beaucoup
références.
Plus subtil. Lui, alors subtil, que là, dans
l'émission blockbuster que vous demandez n'est plus ça.
Mais bref, tout ça, c'était pour dire qu'il y a eu un vrai changement dans l'écriture. Et c'est vrai que ceux qui écrivaient pour les cinq premières saisons sont partis. Il y en a en particulier qui va revenir, Chris Chibnall, pour la saison 11, enfin, qui prend la place de Stephen Moffat et qui va impulser, qui va relancer la série, je pense. Mais je pense que c'est ce qui a permis aussi de faire adhérer les gens à Doctor Who.
C'est l'heure du blind test made in blockbuster. Un blind test sur les docteurs célèbres au-delà de leur cabinet.
Oh,
eh oui.
Ah ben tu nous croyais que j'allais poser des questions sur le docteur Who et tout.
On va finir
ça
va. Sur
vous
H,
connaissez par cœur.
Oui,
sur
oui.
H. Vous pensez? Vous pensez qu'on aurait fait ça?
Je sais pas pourquoi, mais je le sens.
On est tellement plus pervers que ça. Ah. Premier son.
Docteur House.
Bah oui.
Eh oui, c'est le générique de Docteur House. Et voilà, alors ça, c'est vraiment notre manière de faire, c'est-à-dire qu'on vous met en confiance. On commence avec un truc comme ça.
Non, mais
il va être simple, ce blind test.
Je réécoute la suite de Dragon Quest, tiens, je l'ai pas digéré encore, donc.
Mais oui.
Je sais pas comment ils ont fait.
C'est bien, vous suivez bien. Ah oui. J'aime ça. Son suivant.
James Bond, Docteur No.
Oui. Et là, on continue de confirmer la confiance en soi. Voilà.
J'attends que mon cœur soit brisé d'une seconde à l'autre.
Son suivant. Et là, on devient des gros tarbats.
Comment ça s'appelle?
C'est pas Docteur Seuss, un truc comme
ça?
Non, Docteur Seuss, ça n'a rien à voir.
Non. Ah, on a perdu Benjamin. J'écoute.
Je crois que je suis trop jeune.
Alors,
ça, en fait.
c'est des animaux. C'est des animaux qui parlent.
Mais ça correspond à 95%.
Non, mais qui parlent aux médecins qui les soignent.
Ah, Docteur Dolittle.
Oui, Docteur Dolittle.
Mais
oui, mais c'est pas parce que c'est ancien que ça n'a pas droit de citer.
C'est pas ma génération.
Arrêtez
ce jeunisme permanent. C'était donc Docteur Dolittle, son suivant.
Non, c'est pas
Docteur
Queen.
Docteur Queen.
C'est un médecin, c'est...
Ça, Docteur Queen.
Non,
ça, Docteur Queen.
Non, ça, tu sens que c'est...
C'est chiant.
Non. Voilà, c'était la dernière fois que vous étiez invité dans cette émission. Vraiment. C'est l'œil d'Agamotto.
Docteur Strange.
Docteur Strange, d'accord. Bonne réponse.
Il y a un petit problème avec les musiques des Marvel en ce moment, parce que autant des fois, ils nous font
elles
des thèmes qui marchent,
c'est hyper méga
quoi. C'est très générique, là.
Docteur Queen,
ah voilà, voilà, voilà.
Je ne dis plus.
Non mais Benjamin,
c'est dur pour toi, Benjamin.
Il était dans le
même pas dit.
Il est cassé. Vous l'avez vexé.
C'est évidemment le générique de Docteur Queen. Eh bien, on a gagné une chanson. Et tout de suite, on passe un peu de pop rock britannique avec le groupe Hills et leur titre Today Is the Day.
Today is the day I
C'était les Anglais Hills qui chantaient « Today is the day ». Alors, maintenant, j'aimerais qu'on aborde l'avenir de Dr. Who. Donc, on a un 13e docteur qui est une femme cette fois-ci. Est-ce que vous pensez que Dr. Who a encore de longues années? Et aussi, expliquez aussi pourquoi c'est une série qui peine à vraiment convaincre le public français dans son ensemble. Thomas Hercouet. Alors,
juste pour la partie longévité, la série est éternelle. La série, de base, la série est infinie.
Mais on peut tout faire avec Doctor Who.
Ah, c'est ça le truc. C'est que, comme on disait, toute la mythologie est un canevas. Donc, c'est une histoire qui potentiellement est infinie. Le docteur est potentiellement immortel. Alors, je sais qu'il nous glisse ça et là dans la série. Il va peut-être mourir, ça va s'arrêter. Non, on s'en fout. Il y aura toujours un truc. La série, le fait que le personnage change, qu'il y ait juste une base, qu'il soit le TARDIS, qui est un vaisseau qui voyage partout dans le temps et dans l'espace, la série est immortelle. Après, je laisse pour les. Elle est déjà morte, la série. Hein. Elle est revenue. Donc, pour la suite,
de toute façon, si on écoute Pauline les Sarizel. Fans, à chaque fois qu'il y a une régénération, de toute façon, la série meurt. Donc, faut pas écouter les fans. Oui, moi, je voulais revenir plutôt sur le côté français.
Ouais, pareil.
En fait, c'est un peu général. C'est que la science-fiction en France a toujours eu du mal à décoller.
Il n'y a pas de série française.
Pas spécialement. Enfin, c'est pas un genre qu'on maîtrise.
C'est pas un genre qu'on maîtrise.
Mais par contre, en termes de BD, de comics, etc., Metal Hurlant, qui a inspiré quand même James Cameron, qui a inspiré énormément de réalisateurs. C'est français. Après, en termes de série, c'est vrai qu'on n'a pas l'expertise, en fait d'écriture sur pas mal d'autres séries. Quand on écrit des séries, on les écrit résolument français. Moi, je pense que c'est la programmation qui a pas aidé Doctor Who.
Pas en même temps, s'il vous plaît. Hein. Respectez le temps de parole.
Moi, je pense que c'est surtout la prog en fait qui a pas aidé Doctor Who, parce que, enfin, même moi, hein, qui adore la série maintenant, au tout début, j'ai eu du mal en fait parce que c'était mal programmé. Et surtout, c'était pas, enfin, la VF fait pas honneur en fait à ce qu'est la série. Il faut vraiment regarder la VO pour avoir ce côté extrêmement british, très décalé, etc. Et je pense aussi que c'est pas une série qu'on a mise en avant en fait correctement, dans le sens où quand on en parle, on parle du côté un peu déluré, on parle du côté un peu kitsch, on parle du côté un peu SF, c'est un docteur, c'est bizarre. Non, on a été correct. Mais du coup, c'est pour ça que les gens ont pas ce côté. Puis, enfin, si parfois ils zappent, ils tombent sur des monstres chelous. Donc,
Benjamin Martin. Oui, je voulais aussi rajouter qu'il y a eu, malgré les efforts de France 4, qu'il y a eu un souci de diffusion du fait du format de la série, qui est parfois des épisodes d'une heure, des épisodes plus longs, même des épisodes d'une heure et demie. Et ça, à la télé, ça pose des soucis. Donc, pour la diffusion de la série, il y a des épisodes qui sont zappés, qui reviennent. Quelqu'un qui ne connaît pas la série va tout d'un coup avoir l'acteur change, ils ne vont pas spécialement comprendre. Donc ça pose des problèmes aussi aux gens pour suivre la série.
Merci à vous, merci Pauline Cerizel, Asmaël Mardi, Thomas Hercouet et Benjamin Martin. J'espère qu'on aura donné envie de découvrir ou redécouvrir Doctor Who aux éditeurs. Quant à nous, on se retrouve demain pour la dernière émission de la saison. On va terminer en beauté avec David Bowie.